Bonjour à tous, pour toute la culture que j'aime, le rendez-vous incontournable du vendredi. Et alors, j'ai envie de vous faire un sommaire à la Prévert. On va vous parler d'exploration, une affaire d'État au musée de l'armée des Invalides, qui est un lieu que j'adore. On va vous parler d'un film égyptien assez estomacant. On va vous parler de chats dans une BD qui est extrêmement drôle. On va vous parler d'un carnet d'adresses gourmandes et puis de petites pépites culturelles dont... dont j'ai le secret, mon Dieu, c'est extraordinaire, dont j'ai le secret. Et puis, vous verrez qu'on a une pause musicale assez rigolote. Donc, je suis allée voir Top Hat au Châtelet, j'en avais parlé. Et c'est vraiment formidable. Ça fait du bien de voir une vraie comédie musicale. Le film de 1935 de Max Sandrich de la RKO Pictures avec le grand Fred Astaire et Ginger Rogers est repris, non point avec des artistes qui sont formidables. On rit, ça danse, ça swing, il y a des costumes formidables. Je peux vous dire que moi, je n'ai pas vu passer les 2h20. Ce que j'ai trouvé le plus pénible, finalement, c'était l'entracte. Mais voilà, donc c'est au Théâtre du Châtelet et je remercie particulièrement la mairie de Paris d'avoir encore supprimé des places de stationnement, dont des places pour personnes à mobilité réduite. Mais oui, vraiment, c'est... Paris n'est que la ville pour les personnes à mobilité réduite. Quand il y a les Jeux Olympiques, après, ils s'en foutent. Voilà.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Eh bien, j'ai le grand plaisir d'avoir Lucie Morisseau-Chastanier, qui est l'une des artisans, des artisanes de la dernière exposition au musée de l'armée invalide, Exploration, une affaire d'État, avec un point d'interrogation. Et le point d'interrogation est très important. Et Lucie va nous parler de cette formidable exposition que comme toujours, je tiens à dire qu'aux Invalides, les expositions ne me déçoivent jamais.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Laure. Donc, le musée de l'armée propose donc du 15 avril jusqu'au 16 août 2026 donc cette exposition qui présente les motivations et les enjeux des explorations menées par ou avec l'armée à la demande de l'État. Voilà. Parce que bien évidemment, il y a des expositions, des explorations qui sont menées par d'autres acteurs,
oui,
acteurs
tout à fait.
Privés.
Ah oui.
Et on ambitionne d'avoir un parcours qui nous mène de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, avec la particularité d'ouvrir sur les questions contemporaines, afin d'aborder la notion d'exploration dans sa dimension d'entreprise politique.
Oui.
Donc bien évidemment, ce point d'interrogation de l'État, qui met en œuvre la question de comment on parcourt un territoire inconnu et pourquoi on le rend maîtrisable par la connaissance. Ensuite, la question de l'utilisation faite des résultats de l'exploration qui peut prendre plusieurs formes. Et on voit aussi que la géopolitique va se mêler, se mailler.
Voilà, oui.
Avec l'exploration d'un territoire, son appropriation... la préservation, la diffusion des connaissances. Donc c'est vraiment une exposition qui réfléchit à ce phénomène de l'exploration, ses moyens, ses buts, ses finalités, au travers des régimes politiques, avec un focus, bien sûr, puisque nous sommes au musée de l'armée, à l'hôtel national des Invalides, sur le rôle joué par les militaires.
Et ça, c'est formidable, parce que, en somme, dans ces explorations, ces expéditions, on a utilisé le savoir-faire militaire et leur sens de l'organisation. Il y a eu d'autres explorations faites, j'ai envie de dire, par des civils, et on voit la différence. Alors, lorsqu'on commence, alors déjà, je veux dire quelque chose, c'est que j'adore ce lieu, vous le savez, je vous l'ai dit. On arrive, on a la grande cour qui est en réfection. Allô ?
Oui, je vous entends.
J'ai entendu un drôle de bip. Nous sommes écoutés. puisque elle n'avait jamais été rénovée depuis Louis XIV. Comme quoi, quand même, on construisait solide à l'époque. Et donc, pour faire cette exposition, on traverse un petit peu tout ça et nous arrivons au pied d'un escalier magnifique. Et au pied de cet escalier, il y a l'autochenille Citroën, le scarabée d'or. Et parce que là aussi, qui dit exploration, expédition, dit que très souvent, il y a eu des progrès technologiques qui ont été faits suite à cela.
Oui, c'est vrai que cette question qu'on va appeler avec un terme militaire des vecteurs, elle est très importante. Et donc cette autochenille Citroën qui est à nouveau présentée dans son emplacement d'origine, puisqu'elle a été, elle fait partie des collections du musée de l'armée. Elle a été remise au musée dans les années 30. Donc elle incarne cette...
Aussitôt, ça a été donné au musée, ah bon ?
Oui. Et en fait, c'est un dépôt. Elle est très bien conservée d'ailleurs, par ailleurs au conservatoire Citroën. Mais pour l'occasion, pour ce projet, donc elle est visible. Et donc c'est donc une chenille, enfin un véhicule chenillé qui a été conçu par l'ingénieur Kegress, qui a permis de faire cette traversée du Sahara, cette première traversée automobile du Sahara entre 1921 et 1922, et qui est un exploit à la fois technologique, un exploit aussi, on va dire, scientifique et politique, oui, puisque c'est plus de 3500 km parcourus. Et c'est aussi une démonstration politique en plein contexte d'expansion coloniale où ça permet de conforter la place de la France. Et puis sa particularité, c'est que cet équipage, il était civil et militaire. Oui. Donc avec Georges-Marie Hart pour Citroën et Louis-Edouard Dubreuil pour la partie militaire.
Est-ce qu'il y a eu la même implication militaire lorsqu'il y a eu la croisière jaune qui est faite aussi avec des voitures Citroën, non ? Je dis des bêtises.
Alors,
peut-être.
Oui, il y a eu quelques personnalités militaires, mais c'était des finalités, encore un peu différentes, sont vraiment liées aussi, je dirais, à cette pénétration coloniale et voilà, cette pénétration en plein apogée coloniale.
Alors après, hop, nous montons ce bel escalier pour arriver à l'exposition. Alors nous, on a eu de la chance parce que nous avions toute l'équipe de commissariat d'exposition pour nous la faire découvrir, et ça je trouve que c'est formidable. Et pardon, excusez-moi, l'exposition est mise par différentes sections, et vous, j'ai vu, Lucie, que vous occupiez surtout du fond photographique, la collection de photographies qui est au... Et vous êtes également proche du département des Beaux-Arts du Patrimoine. Alors, question, quand quelqu'un décide de faire une exposition comme ça, je suppose qu'il y a une réunion de tous les départements en disant, voilà, on va faire telle exposition. Qu'avez-vous de formidable à nous proposer ? Et il y a forcément des choses formidables au musée de l'armée des Invalides.
Alors, on va reprendre une analogie avec le thème, c'est-à-dire que une exposition telle que celle-ci, c'est une expédition. Et c'est une expédition logistique qui met en œuvre les forces vives, les forces scientifiques collégiales du musée, qui est un musée d'art, d'histoire, de sciences et techniques et de société. Et donc, pour un thème tel que celui-ci, c'est vrai que c'est un formidable terrain d'investigation. Donc, on a la chance, effectivement, de pouvoir rassembler un demi-million d'objets, je dirais, de l'âge du fer jusqu'à nos jours. Mais nous ne conservons pas tout. Et quand on prépare des expositions qui font cette taille, elle fait presque 600 mètres carrés, on va bien évidemment mettre en valeur le propre patrimoine du musée, le patrimoine du ministère des Armées. On a la chance de faire partie, on a un ministère qui est le deuxième acteur culturel de l'État avec les collections du musée national de la Marine, le musée de l'air et de l'espace, on pense aux archives avec le service historique de la Défense et le CPAD, et bien sûr, d'autres partenaires incontournables, les archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, mais également le Muséum national d'histoire naturelle, oui. Le Musée national d'histoire naturelle du Havre, et des partenaires auxquels on pense un peu moins, mais dès qu'on veut parler des explorations très contemporaines, eh bien, on va faire appel à des entités comme le CNES, ou bien la Marine nationale qui nous a prêté des maquettes de sous-marins. Donc, c'est plus de 30 prêteurs et plus de 250 objets. Donc, qui finalement, ensemble, dressent ce patrimoine qui a été rassemblé pendant ces explorations. C'est ça qui est formidable.
Alors, je dois reconnaître que parfois, on retrouve son âme d'enfant, parce qu'il y a des différentes maquettes de bateaux. Et puis, il y a aussi ces magnifiques instruments de navigation, donc que j'ai toujours trouvé, moi, fascinant. Alors, on commence par de Bougainville à Dumont-d'Urville, cap sur l'hémisphère sud, voilà. Et ça, c'était très important parce que il y a toujours eu une bataille technologique et maritime pour arriver à aller de plus en plus loin. Et surtout, il y a la très belle exposition Magellan actuellement au musée de la marine. Et on voit comment, à force d'exploration, de raffinement technologique, on arrive à avoir des conquêtes maritimes qui sont de plus en plus fines, de plus en plus fortes.
Tout à fait. Et nous, on a voulu prendre comme point de départ la fin de la guerre de 7 ans, 1863. Donc on est à cette dernier tiers du 1763, donc dernier tiers du 18e siècle, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette période qu'on appelait les grandes découvertes, et je mets toujours des guillemets à découvertes parce que c'est découverte pour ceux qui partent, c'est pas pour ceux qui sont
exactement.
Sur place
et
qui connaissent déjà, parce que l'exploration c'est ni français ni européen, hein. Voilà, l'homme explore depuis très longtemps, si on pense aux Chinois ou aux Polynésiens au 13e siècle. Et l'idée que de cette défaite où la France perd finalement son premier rang intercolonial, notamment face à la Grande-Bretagne, sa façon de s'affirmer sur l'échiquier, ça va être de conquérir la connaissance, la science, les cartes, donc la traversée des mers. Et effectivement, ces grandes explorations, elles ont comme point de départ un mythe qui est partagé en Europe, qui est la Terra Incognita Australis,
voilà, oui.
Qui en fait n'est pas encore complètement connue par les cartographes, par les géographes, et on pensait à cette époque qu'il y avait un effet d'équilibre entre ce continent et le reste des autres continents qui avaient été découverts. Et grâce effectivement à ce bond technologique dont vous avez parlé, Marie-Laure, c'est-à-dire des bâtiments de la marine qui vont être en capacité de prendre à leur bord énormément d'hommes, d'instruments, de vivres, de matériel, presque des académies flottantes, va se conjuguer aussi le bond technologique des instruments de navigation, donc on pense bien sûr aux horloges marines, mais à l'octant, qui vont permettre de calculer les longitudes et de se repérer dans l'espace en pleine mer et ne pas dévier de son cap. Et ça va aller aussi de concert côté ministère des Armées, la professionnalisation des parcours des officiers, la création des académies, et puis des corps de ce qu'on appelle les armes savantes, les ingénieurs géographes, le génie, les arts polytechniques. Ouais. Et c'est des profils extrêmement complets, extrêmement solides, comme Bougainville ou La Pérouse, qui vont préparer très 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 en amont leurs expéditions, avec des cartes, des bibliothèques, des instruments, et qui vont permettre de repousser ces frontières de la connaissance.
Oui, c'est
alors,
sûr.
Il faut quand même dire que les Anglais ont été meilleurs, puisque le premier voyage de Bougainville, cette circumnavigation, hein, c'était les termes utilisés à l'époque, n'a pas permis de percer ce mythe de la Terra Australis, mais c'est Cook, voilà, le rival anglais. Mais, bien sûr, ensuite, les autres expéditions vont aller beaucoup plus loin. On pense à la terre de Diemen, qui s'appelle aujourd'hui la Tasmanie, qui a été cartographiée lors de l'expédition Baudin. Et bien sûr, vous l'évoquez. Et justement, aujourd'hui, c'est les 200 ans du départ de l'expédition de Dumont d'Urville qui va découvrir en janvier 1840 ce qu'on va connaître sous le nom de Terra Adélie, c'est-à-dire une portion du continent Antarctique, le pôle sud, qu'il va prendre en possession au nom de la France.
Et donner le nom de son épouse.
Adèle. Tout à fait.
Voilà.
Parce que on parle beaucoup des hommes hein, dans cette exposition, tout simplement parce que les grandes marines royales européennes interdisaient la présence des femmes à bord. Mais derrière tous ces hommes, il y a quand même beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, on a, et c'était très émouvant, trouvé dans les archives du service historique de la Défense une lettre de la mère de Dumont d'Urville qui écrit au ministre de la guerre et qui se désole d'avoir aucune nouvelle de son fils. Ou on pourrait aussi parler de Jeanne Barret.
Ben oui, j'allais vous dire, Jeanne Barret, quand même, qui est la première femme française à faire un tour du monde, quand même.
Voilà.
Mais elle était travestie en homme.
Elle était travestie en homme, tout à fait. C'est un personnage exceptionnel. Et donc, il faut savoir qu'au moment de l'expédition de Bougainville, donc Commerson, qui est naturaliste, alors, on dit naturaliste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît bien sûr la science des plantes, on dit qu'il herborise à cette époque, va emmener avec lui sa compagne, mais qui est tout aussi versée dans les sciences naturelles que lui. Elle est travestie comme son valet et elle va faire une grande partie du voyage complètement dissimulée aux yeux de l'équipage. Et au moment où Bougainville arrive à Tahiti, donc on est en 1768, elle va être reconnue par les Polynésiens dans son genre, et on présente un document extraordinaire dans cette exposition qui est le journal de bord de François Vivès, oui, qui est le chirurgien de l'expédition et qui va consigner dans son journal ce moment où les soupçons révèlent que effectivement c'est bien une femme, et elle va rester à bord jusqu'à être débarquée à l'île Maurice, puisque malheureusement Commerson va mourir et elle va recevoir une rente de la part du roi. Mais ses travaux seront pris en considération beaucoup plus tard.
Mais elle restera à Tahiti ou elle reviendra en France?
Non, elle ne revient pas tout de suite en France. De Tahiti, l'équipage refera une escale ensuite à l'île de France, qui est l'île de la Réunion.
Voilà, oui.
Où elle va rester, elle repartira en France plus tard à bord d'un autre navire, puisque son compagnon est décédé entre-temps.
C'est extraordinaire. Alors moi, je vous parlais du journal, et ce qui est très très beau, c'est de voir l'écriture. On n'apprend plus à écrire, et je le déplore, mais voir leur écriture et la précision de leurs impressions, de leurs notations sur ce qui se passe. Donc, on va passer, parce que c'est peut-être la plus connue, tout ce qu'il y a dans la conquête du général Bonaparte de l'Égypte, où il emmène avec lui à des scientifiques, dont un certain, dont on ne connaît pas le nom, Champollion, je crois, oui, voilà, et d'autres qui vont, où va y avoir aussi une guerre sur la pierre de Rosette, avec la perfide Albion, naturellement, mais aussi
toujours
la perfide Albion, faut quand même bien le dire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que par exemple l'Institut de France qui est créé en 1795, il va jouer un rôle très important dans toutes ces commissions pour le choix des savants, pour avoir des objectifs. Et on voit que se met en place non seulement conquête militaire un petit peu obligée avec la bataille des pyramides, parce que, oh bah punaise, ils voulaient pas de nous. Oh bah vraiment, ils exagèrent, ces gens qu'on vient chez eux, ils ne veulent pas de nous. Mais l'égyptologie, d'ailleurs les Égyptiens le regardent, ne sera pas ce qu'elle est actuellement sans les découvertes de Champollion et une idée de préservation de certains faits historiques qui n'est pas évident du tout à l'époque. Et puis, ce qu'il y a, j'ai beaucoup aimé le campement du capitaine, aidez-moi, Roulet. Merci. Avec, on voit leur tenue, et puis on se dit, mais c'est incroyable, parce qu'ils avaient presque rien, et ils sont arrivés à faire des choses tout à fait extraordinaires. Donc c'est vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé ce truc. Il y a également ce truc, mais Marie-Laure, comment tu parles? Pardonnez-moi, Lucie. Mais on nous montre également des uniformes, Et il y a une évolution d'ailleurs de l'uniforme par rapport à ses conquêtes, j'ai envie de dire, ses conquêtes, ses explorations. Donc on peut également parler de ça parce que par rapport aux faits militaires et à ses découvertes, ça implique énormément d'avancées technologiques dans des, j'ai envie de dire, des secteurs extrêmement différents. Par exemple, on fait un bond terrible quand nous arrivons à la conquête spatiale. Et ben là aussi, il va y avoir, on va chercher des tissus, on va chercher comment nourrir nos conquérants de l'espace. Et je trouve ça, cette partie-là, elle plaît beaucoup aux petits garçons, j'ai remarqué.
Et aux petites filles, hein, parce que aujourd'hui on a Sophie Adnault, voilà. Qui est colonel de l'armée de l'air, qui représente la France dans l'ISS. Alors c'est vrai qu'on va parler pour la période de l'expansion coloniale de la France, voilà, de rusticité. Alors parfois il y avait des objets comme certains chapeaux ou même certains instruments qui ne se trouvaient pas dans les economas militares, mais qui étaient plutôt achetés en ville, dans le secteur civil. Et cette question, effectivement, d'avoir le juste équipement pour mener ces missions qui engagent le corps, la résistance du corps humain à des situations extrêmes, de chaleur, de froid. En fait, on l'évoque aussi avec donc l'espace, parce que le CNES, qui est un de nos prêteurs, nous a très aimablement mis à disposition une combinaison de spationautes qui est un prototype qui sans doute a été envisagé pour l'exploration lunaire, mais ça me permet d'aborder une combinaison qu'on a vraiment désiré très très fort et qu'on n'a pas eu, mais qu'on a mis dans le catalogue, mais je vais vous en parler, puisqu'en fait, Sophie Adnault va tester une nouvelle combinaison intravéhiculaire qui est fabriquée en coopération avec l'équipementier sportif Decathlon.
Ah, d'accord.
Et alors là, vous avez quitté complètement ce que vous connaissez des combinaisons spatiales traditionnelles pour avoir vraiment une tenue extrêmement futuriste, avec un hublot très très foncé qui réverbère la lumière. Enfin, on a l'impression effectivement d'être dans de la science-fiction. Et pourtant, oui, c'est réel. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Cette question de la bonne adéquation de l'équipement, mais aussi de la façon dont on va se nourrir. Et ça, c'était important de ramener toujours, malgré cette dimension de l'État, à l'état humain, c'est-à-dire voilà, des hommes, aujourd'hui des hommes et des femmes, qui s'engagent et qui s'engagent avec leur propre corps.
Ah, mais, mais oui, c'est ça aussi. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un entraînement physique très fort que a eu Sophie Adnault, parce que on ne vient pas comme ça. De toute façon, elle est colonel de l'armée de l'air, donc c'est tout un parcours formidable. Donc, et on voit l'évolution qu'il y a eu par rapport aux premières femmes qui ont décidé de piloter un avion. Donc c'est une victoire.
Raison, c'est un parcours d'engagement, de détermination, avec qui va nécessiter des connaissances très très diverses, avec un mental d'acier. Elle l'explique très bien. On a réussi à obtenir des parties d'une interview qu'elle avait donnée l'année dernière au Salon du Bourget, oui, où elle explique qu'elle doit apprendre à arracher une dent, à faire des gestes médicaux, parce qu'il n'y a pas de dentiste dans l'espace, elle le dit de façon très très spontanée, et je trouve que c'est très intéressant pour le jeune public. C'est que comme dans une maison, il faut savoir tout réparer, dans un vaisseau spatial,
oui,
dans une station internationale, il faut savoir tout réparer. Mmh. Et on a effectivement quelques séquences sur ce qui constitue ce qu'on appelle le Graal pour les astronautes, c'est la sortie extravéhiculaire, oui, l'EVA, où pendant 5 à 6 heures, avec une énorme combinaison qui est presque un mini vaisseau spatial en soi, ils sortent de la station pour intervenir sur l'infrastructure, et en étant reliés comme un cordon ombilical, voilà, Donc ça, c'est vrai que c'est très vertigineux.
Alors, il y a quelque chose auquel j'ai pensé, parce que donc, il y a tout, un paragraphe de l'exposition, c'est l'exploration verticale, mais il y a le bathyscaf et la fusée, et moi, j'ai pensé à Tintin, parce que Tintin, comme beaucoup de gens, ça a été une grande partie de mon enfance de lire ça. Alors, on pense au petit sous-marin du professeur Picard, si je ne m'abuse, et le bathyscaphe, qui a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on a marché sur la Lune, quand même, Hergé et son équipe avaient fait beaucoup de recherches, et on pense fortement à Tintin, finalement. Donc, peut-être que Tintin, il va au Congo, il va dans différents lieux comme ça. J'ai relu récemment Tintin chez les Soviets. Donc, c'est vrai que c'était aussi un aventurier, un explorateur. Et finalement, peut-être que chez nos nouveaux militaires explorateurs, ils ont eu une vocation un peu due à Tintin.
Alors, je pense que vous avez raison de parler de Tintin et du talent d'Hergé, parce que ils ont, dans une des cases, il a quand même imaginé ce qu'on appelle l'overview effect, c'est-à-dire cette vue depuis un vaisseau spatial, cette vue de la Terre incroyable qui est toujours très bouleversante. Donc ça quand même, Hergé, il l'a imaginé. Mais je pense que même avant Hergé, et ça fait le lien avec le professeur Tournesol et les bathyscaphes, c'est quand même Jules Verne.
Enfin, absolument.
C'est vraiment ce monde des profondeurs. On pense au voyage en ballon, on pense à voyage au centre de la Terre, et puis
bien sûr
à
milieu sous les mers.
Et on a d'ailleurs un auteur de notre catalogue, qui est historien et qui est à l'Académie de Marine, Vincent Guiguenot, qui a produit un texte tout à fait intéressant, puisque dans cette épopée des bathyscaphes, il compare finalement le personnage de Monod, Théodore Monod, penseur humaniste des Méharées, mais qui est d'abord un biologiste spécialiste des poissons, il faut se le rappeler, au professeur Aronnax, qui va accompagner bien sûr le capitaine Nemo. Et donc c'est vrai qu'on a, on touche du doigt aussi ce côté mythique et ce côté du dépassement humain, technologique et des imaginaires d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui on l'aborde dans l'exposition. Et même vous-même, vous êtes connaisseuse de Minecraft. On aborde les explorations.
Absolument,
numériques.
Et ça a étonné tout le monde d'ailleurs. Absolument, j'adore. Donc, j'ai trouvé ça. Je vois que j'ai un de mes confrères qui m'a regardé. Ah bon? Oui. Alors, je voudrais parler du catalogue, parce que le catalogue est absolument magnifique. Et c'est quand même une aventure incroyable quand on doit faire ce catalogue. Ça demande un temps incroyable où vous devez parfois synthétiser. Et finalement, quand on a une exposition comme ça, ce qui est un peu parfois terrible, ça doit être choisir tel objet, telle image, telle photographie. Et je trouve que le catalogue est un peu la continuité totale de cette belle exposition. Il y a à peu près 350 illustrations dans ce catalogue, qui est vraiment formidable. Et Lucie, quand vous vous êtes attelée au catalogue, quelle impression on a? On est un peu marathonien, coureur de fond, comment l'aborde-t-on avec vos camarades?
Vous avez raison, c'est une course de fond, une exposition, parce que en fait le catalogue se mène assez vite de concert avec le projet d'exposition. Et finalement, toujours pour filer cette métaphore, tout commence par des listes.
Oui.
Voilà, des listes d'objets, des listes de vœux, des listes de prêteurs, des listes d'auteurs. Et puis surtout, comme dans toute exposition, enfin la plupart des expositions, en tout cas au musée de l'armée, on pense à un comité scientifique, donc qui va nous permettre de garder le cap, de nous faire des suggestions, de rectifier parfois aussi des orientations. En tout cas, Quand vous l'avez dit, moi je suis responsable des collections de photographies, Lucille par rapport à Naris, elle est chargée des recherches de provenance, le lieutenant-colonel Guillot est chef du département artillerie, Antoine Tromsky il est responsable de collection au département contemporain, on a tous nos savoirs, nos savoir-faire, nos disciplines un peu de prédilection. Mais on ne sait pas tout, et c'est vrai que c'est une aventure de la connaissance qu'on mène avec grand bonheur avec ce comité scientifique. On a bien sûr des personnalités comme Pierre Sangaravelou, oui, ou Sylvain Venner. On pense aussi à Nick Fenet, qui est archéologue, ou à Isabelle Surin, qui est une grande spécialiste de l'Afrique. Et on va avec eux réfléchir à des intervenants, des contributeurs qui permettent d'avoir cette approche chorale, avec soit des angles très historiques, soit parfois plus géopolitiques. Et la doctrine un peu en termes de catalogue au sein du musée, c'est qu'on va avoir une partie essai, qui va essayer, avec une attention d'être assez synthétique, de résumer un sujet ou un thème. On va avoir des textes plus resserrés qui sont comme des petits cas de figure ou des petits focus. Et puis, on va avoir toute la partie, effectivement, catalogue, où on va vraiment chercher à donner une archive de l'exposition par la reproduction des œuvres avec des notices plus ou moins développées. Donc ça, c'est vrai que ça explique aussi le volume.
C'est une réussite. Et je dis aussi ce qui est formidable, c'est qu'il y a des conférences qui sont gratuites, des projections gratuites, il faut réserver, aller sur le site.
Un cycle cinéma.
Voilà, avec des films pas forcément connus. Moi, je recommande L'Atlantide, l'Empire perdu, franchement. Voilà, et Capitaine des Ténèbres, qui est un téléfilm de Serge Moati, qui est vraiment formidable, et le chef-d'œuvre Derju Zala d'Akira Kurosawa, qui est extraordinaire, qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Je l'ai vu à la sortie, donc vous voyez, c'était pas hier, et je m'en souviens très bien. Donc, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez plein d'actions qui sont gratuites, et c'est formidable, parce que le Musée de l'Armée Invalide offre à nos auditeurs des laissez-passer pour pouvoir découvrir cette très belle exposition. Moi, je tenais vraiment à vous remercier, Lucie, pour votre disponibilité. Et puis, je remercie aussi beaucoup le lieutenant-colonel Philippe Guillot, qui m'a fait pratiquement une visite privée, donc, et qui m'a permis de tâter l'étoffe de sa chemise, car je lui avais posé une question sur l'évolution des vêtements des militaires, du costume militaire, et voilà. Et donc, je tiens à dire à nos familles que j'ai tâté l'étoffe de sa chemise au niveau de l'avant-bras. Attention.
Ben écoutez, en tout cas, un très grand merci. Et puisque certains des auditeurs auront la chance d'avoir des laissez-passer, j'en profite pour dire que le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h et que les personnes qui ne peuvent pas se rendre pour des questions de travail peuvent profiter des nocturnes qui vont avoir lieu, notamment les samedis 6 juin et le 11 juillet jusqu'à 20h. Et que c'est bien sûr gratuit pour les moins de 18 ans et que nous avons pensé avec beaucoup d'attention un livre à jeune public où il y a beaucoup d'énigmes et à résoudre. Et donc on attend un public pour partager tout ce travail, parce que si on fait tout ce travail, c'est pour le partager au public le plus large.
Bon, écoutez, Lucie, vous êtes formidable. Lucie, c'est Lucie Morisseau Chastanier, et qui est formidable. Merci Lucie infiniment, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Et ben, un très grand merci Marie-Laure pour votre accueil et pour votre intérêt pour l'exposition, et puis à bientôt pour une prochaine exposition au Musée de l'Armée.
Je serai là.
Merci beaucoup.
Au revoir Lucie.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Mais oui, vous êtes bien sur IDFM Radio 98, la radio que vous aimez et que nous aimons vous écouter, chers auditeurs, pour notre émission préférée sur la culture. Là, je vais vous parler d'un film qui est un événement. Ce film va sortir au cinéma le 6 mai. L'entente, la face cachée d'Alexandrie. C'est un film égyptien. C'est quand même assez rare d'avoir des films égyptiens sur nos écrans. On est dans la grande banlieue d'Alexandrie et on est au sein de cette Égypte ouvrière, de gens qui travaillent dur au milieu de la poussière. Et on voit Hossam qui a 23 ans et son petit frère Maro qui a 12 ans. Maro ne veut plus aller à l'école, il veut suivre son frère qui est revenu au sein de ce foyer qu'il avait éjecté il y a quelque temps parce que son père est mort à l'usine. Et l'usine a proposé au fils de reprendre le poste du père. On va voir après ce qui va se passer un petit peu là-dessus. Et on découvre petit à petit que Hossam avait été mis à la porte par ses parents parce que bon, il avait volé de l'argent, il se droguait, tout ça. Mais lorsque le père est mort, ils ont cherché à le joindre parce que il fallait qu'il revienne, surtout que la mère est assez malade. Donc ils arrivent dans cette usine qui est une usine, une sidérurgie, où je tiens à vous dire que je pense que tous les syndicats français pousseront des cris d'orfraie en voyant les non-consignes de sécurité. Mais voilà. Et Hossam, il reprend le poste de son père. Et puis tout compte fait, avec des réflexions des autres ouvriers, ils vont se poser une question terrible, à savoir si la mort était véritablement accidentelle. Et on est dans un espace industriel très bien filmé avec une couleur gris bleuté. J'ai presque envie de dire, même si c'est de l'acier, c'est presque un univers minéral. Donc ils travaillent dur et Hossam, qui est très joli garçon d'ailleurs, il a 23 ans, il est très mignon, reçoit le message d'une femme, une femme mystérieuse, qui ne veut pas dire son nom, qui dit simplement « mais je t'ai vu ». Et c'est assez bizarre cette relation qui va se faire. Et petit à petit, Hossam va être pris dans un enchevêtrement de choses un peu bizarres. Il va se poser, il va sentir l'agressivité de certains. Il va sentir d'autres qui veulent parler mais qui ne parlent pas. Il sent bien que finalement, c'est vrai, que son père, on l'a pris pour pas qu'il fasse un procès qui aurait été préjudiciable naturellement à l'entreprise. Mais c'est aussi la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Et Hossam et son frère vivent dans cette... Il a 12 ans, Maro, et il sert d'utilité dans l'entreprise. Et c'est très bizarre de voir cette dureté du travail. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est la manière dont c'est filmé. Parce que il y a quelque chose d'extrêmement sec, Mohamed Raad va privilégier parfois des plans fixes où les personnages vont entrer, très peu de mouvements de caméra, mais cette sécheresse permet à mettre en exergue cette histoire terrible. Mohamed Raad a eu cette idée parce que un jour il a rencontré un jeune homme qui lui a raconté que son père était mort tragiquement à l'usine, mais pour que la famille ne fasse pas de procès, il avait été embauché dans cette entreprise. Finalement, je trouve que Hossam, c'est un héros de tragédie, quoi, parce que il est victime de tout cela, Maro aussi, et on est porté par cette histoire qui, a priori, sur le papier, moi, j'avais pas envie de voir ça, finalement. Mais je l'ai regardé parce que la réalisation est extraordinaire. Ça a été présenté à la 75e Berlinale récemment. Il a énormément de succès dans différents festivals. Et qu'il soit à Paris le 6 mai, avec la présence du réalisateur, je trouve que c'est formidable de pouvoir rencontrer une autre Égypte, cette Égypte de gens qui sont laborieux, qui travaillent. On a différentes choses sur la société qui passent par des paroles. C'est très délicat, le scénario est très serré, il est pratiquement sec. Et autant on a commencé sur une algarade entre les deux frères, et on finit par Maro, qui est tout seul, qui a pris le couteau de son frère et qui est sur lui, qui attend. Finalement, on est comme une parenthèse dans la vie de ces gens-là. Et je trouve formidable aussi, c'est que les deux comédiens principaux, et certains ouvriers sont des ouvriers, mais les deux garçons, les deux frères, sont interprétés par des amateurs. Et franchement, que ça soit Seyyad Islam, qui me pardonne pour la prononciation, ou Adam Chouke qui fait Hossam, qui est très beau garçon, je pense qu'ils ont une carrière, parce qu'il y a quelque chose. Donc, c'est à partir du 6 mai, à Paris en tout cas, et à Lyon également, que le film sera diffusé. C'est à voir, et franchement, vous me direz, ah, mais oui, Marie-Laure, tu avais raison. On fait un voyage en Chine avec David Bowie, Chennai Girl.
China girl, I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, soul the stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Alors, une BD, comme je les aime, ça s'appelle Les chats en BD chez Bambou Édition, Cazeneuve, Flora et Escapa. Alors, je vais vous dire, quand on a des chats, cette série, on croirait que c'est un. Ça a été pris à vivre chez nous. Donc, on assiste à un couple qui a trois chats. Donc trois chats quand même, heureusement ils ont une maison, hein, parce qu'en appartement, je pense. Mais il y a une nouvelle constante dans la vie des chats, c'est qu'il y a un bébé qui intervient. Et les chats se posent beaucoup de questions sur les comportements humains. Donc dans ces trois chats, il y a le vieux chat qui lui donne des conseils, le petit nouveau qui est un petit tigré tout mignon, et Shizu qui est un chat qui est très 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 porté sur les croquettes. Et c'est très rigolo parce que je peux vous dire qu'il y a des choses que c'est du vécu véritablement. On voit l'intérêt qu'ont les chats éperdu pour les cartons. Ça à tout le monde, pour faire plaisir à votre chat, mettez-lui un carton, il sera très heureux. Pas la peine d'acheter des jouets sophistiqués, un bon carton et ils seront tout à fait contents. Comment ils se comportent dans la nature, comment ils se comportent entre eux, c'est extrêmement drôle et bien vu. Et alors, il y a une histoire par planche, et regardez en haut les petits dessins qu'il y a, mais c'est divinement bien dessiné, et surtout, moi j'ai trouvé ça mais tellement drôle, les textes, et on vous donne des conseils, oui, on vous donne des conseils pour accueillir un nouveau chat. Alors moi, il y a un truc qui m'a énormément fait rire. Ça m'a rappelé un chat que nous avions lorsque nous étions petits, parce que on voit que le chat à l'intérieur va faire ses besoins dans une plante verte, un rhododendron. Et petit, nous avons eu un rhododendron qui est mort grâce au pipi du chat. Et ils ont trouvé un truc, ils ont toujours des plantes à l'intérieur, mais ils ont mis des cactus, des cactés. Donc le chat est très très fâché. Donc c'est sûr. On voit aussi comment ils nous regardent, nous humains, avec nos certaines aberrations. Et Merlin, le plus vieux chat, sait très bien faire fonctionner tout ça. Et on voit que bah, les chats, et bah, c'est comme nous. Chaque chat, c'est différent. Et alors, leur appréciation sur les chiens est vraiment très, très, très drôle. C'est tout simplement du bonheur. Et vous avez un cahier qui a été fait par une comportementaliste qui vous explique comment accueillir un nouveau chat. Et il y a des conseils qui sont très bien faits, mais je vais vous dire quelque chose. Votre chat, dites-vous bien que vous ne serez jamais le maître d'un chat, que c'est le chat qui vous apprivoisera et qui arrivera à vous faire faire absolument ce qu'il veut. Les chats, c'est la nouvelle BD chez Bambou Édition avec le cahier bonus par Marion Ruffier, spécialiste en comportement des félins. Vous allez prendre un plaisir fou à lire cette BD qui est bien faite. Moi, j'aime beaucoup Bambou Édition parce que je trouve qu'il y a une qualité dans l'édition et les dessins m'ont énormément fait rire. Et je ne peux pas résister au truc. Il y a tout à fait un moment donné où on vous raconte un peu l'histoire des chats. Donc, on vous dit qu'ils ont été vénérés en Égypte. Mais hélas, quand est arrivé le Moyen-Âge et l'Inquisition et l'obscurantisme et l'imbécilité totale, ces pauvres chats ont été déclarés comme étant des bêtes de Satan. On les a martyrisés, on les a noyés, on les a brûlés avec les sorcières. Et notre héros, enfin ou notre non-héros, le papa des chats, a la très 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 mauvaise idée pour Halloween de mettre un costume de sorcière et il revient complètement déchiqueté par tous les chats du quartier. Je dois dire que c'est assez rigolo. Sa femme lui dit, je t'avais dit de te mettre en Batman, c'était beaucoup moins risqué. Voilà, les chats Cazeneuve, Flora, Escapa, c'est à consommer sans modération et puis à relire naturellement. Si vous voulez rire, mais rire, mais rire, allez aux Amandiers de Nanterre voir La puce à l'oreille de Georges Feydeau dans la mise en scène de l'excellentissime Lilo Bord. C'est jusqu'au 10 mai. Si vous riez pas, je ne sais plus quoi faire. Nous avons Monsieur Chandebise, Victor Emmanuel quand même, qui est marié à une femme absolument délicieuse. Mais Raymond se pose des questions parce que son mari, qui jusqu'à présent avait honoré sa femme, comme on peut l'imaginer, tout d'un coup il n'y a plus rien. Il ne l'honore plus du tout. Elle se pose des questions. A-t-il une maîtresse? Surtout qu'elle a reçu au courrier du matin les bretelles de son époux et ça vient de l'hôtel du Minet Galant. Tout à Montretout, je peux vous dire que l'hôtel du Minet Galant à Montretout, à Saint-Cloud, existait véritablement. Que s'est-il passé au Minet Galant? Elle veut en avoir. Donc, elle appelle à la rescoute sa meilleure amie, qui est son amie de pension, qui est Lucienne Homénides de Estanguois, interprétée par Pauline Clément, qui est à mourir de rire. J'adore cette comédienne. Et Lucienne, elle lui demande de l'aider. On a un flot de personnages. Nicolas Chupin fait un Carlos Homénides absolument hilarant. C'est Serge Bagdassarian qui fait le double rôle de Victor Emmanuel et de Poche. Parce que figurez-vous que dans l'hôtel du Minet Galant, le valet de pied qui est pas fut-fut et un peu porté sur la bouteille est le sosie de Victor Emmanuel. Donc, comme toujours dans Feydeau, quiproquo. Je n'ose. C'est magnifiquement bien orchestré par Lilo Bord qui a fixé ça dans les fins 50, 60 et ça fonctionne magnifiquement bien. Moi, ce qui m'a fait plaisir lorsque je l'ai revu, je connais la pièce à peu près par cœur, c'est qu'il y avait des jeunes de 14, 15 ans qui ont adoré et ça fonctionnait et ils riaient et on s'est dit, voilà, c'est formidable quand ça fonctionne à ce point-là. C'est La puce à l'oreille de Georges Feydeau, mise en scène Lilo Bord avec la troupe de la Comédie Française, et c'est à Nanterre, et il faut y aller, c'est absolument époustouflant, comme disait un personnage dans une pièce. Je vous signale aussi, moi j'ai trouvé ça épatant, c'est Alexia Perronet. Alexia Perronet, elle est suivie sur son site, c'est @leparisfootdalex. Voilà, voilà. Et elle a fait un délicieux petit carnet d'adresses gourmandes. C'est chez Larousse. Et moi, j'ai trouvé ça formidable parce que vous avez la wishlist attestée. Donc, tous les restaurants, pâtisseries, cafés dans lesquels vous voulez aller. Il y a les adresses qu'on m'a recommandées. Il y a mes adresses préférées. Et puis, mes adresses préférées pour différentes, comment dire, tu vois. Il y a aussi les notes qu'elle peut mettre suite à un restaurant qu'elle a fait. C'est super bien fait parce que parfois on a oublié. Et puis vous avez aussi les cuisines du monde et il y a de très jolies illustrations. Moi je trouve que c'est un cadeau formidable à faire. C'est chez Larousse, c'est 13,99€, donc on va pas se mentir. 13,99€, c'est 14€ quand même, hein, on va le dire. 14€. Et comme ça, vous pourrez remplir vous-même tout ce que votre gâteau préféré, où vous l'avez trouvé. Il y a plein de petites idées et j'ai trouvé ça super mignon et franchement, parfois on ne sait pas quoi offrir. Ça va être la fête des mères. Donc vous pouvez offrir mon carnet d'adresses gourmandes, c'est une bonne idée. Vous pouvez offrir aussi les chats en BD chez Bambou Édition. C'est une bonne idée. Sur le plateau, il me fait « Oui, oui, Marie-Laure, c'est une bonne idée. Il faut y aller. » Alors, nous allons avoir la semaine prochaine à l'Opéra Comique Lucia di Lammermoor. Alors, Lucia di Lammermoor, c'est un drame écossais. Mais là, l'événement, c'est qu'il sera chanté en français. Mais oui, parce que pendant, j'ai envie de dire, jusque dans les années 40-50, 1940-1950, bah les opéras, ils étaient traduits. C'était, sauf si on recevait une troupe étrangère, eh bien, c'était traduit en français. Et ça ne choquait strictement personne. Bon, maintenant, on est plutôt dans la version originale, ce qui permet d'avoir d'énormes torticolis quand c'est mal réglé. Mais je tiens à vous prévenir tout de suite, que c'est pratiquement complet. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir des places de dernier moment. Donc, parfois, vous pouvez avoir de la chance et de pouvoir trouver ça. Lucia di Lammermoor, c'est un opéra de Donizetti. C'est un très très bel opéra avec des airs célébrissimes. C'est du 30 avril au 10 mai. Autant vous dire qu'il faut vous dépêcher. Alors, on a cet opéra donc qui est en français. C'est un très très bel opéra. On est dans une Écosse déshéritée, déchirée par des rivalités claniques. Et Lucie doit épouser un lord qui sauverait le nom de sa famille du déshonneur. Mais, en secret, elle aime Edgar. Et devinez quoi? Edgar, il est d'une famille rivale. On pense un peu à Roméo et Juliette, hein, mais bon, voilà. Donc, ça vient d'un livre de Walter Scott, qui était extrêmement lié au 19e siècle et qui a une œuvre tout à fait formidable. Lisez du Walter Scott, vous verrez, c'est vraiment très très bien. Et donc, Lucia a été un énorme succès dès qu'il a été, dès que cet opéra a été, et là, mais attendez, on a une équipe absolument formidable. À la direction musicale, on aura Speranza Scapucci. On a une mise en scène de Eugeni Titov, qui n'est pas l'humoriste marseillais, hein, c'est pas du tout, je tiens à vous prévenir tout de suite. Et une distribution magnifique, Sabine Devielle qui jouera Lucie, Étienne Dupuis, Léo Vernot Desroches, Edwin Crossley-Mercer, Saïd Rata et Johan Lelin. Et Insula Orchestra, s'il vous plaît, avec des chœurs magnifiques. Donc, essayez d'avoir des places. Et là, on a la chance d'avoir la sublime Sabine de Vial qui n'est pas venue chanter sur le palato. Non, 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 non. Mais on a l'enregistrement de l'air, la célébrissime air de la folie, qui est un air qu'aiment beaucoup les cantatrices. Et là, Sabine de Vial est prodigieuse. On écoute la magnifique Sabine de Vial. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous demander des invitations pour le musée et je vous dis belle semaine, à la semaine prochaine si vous le voulez bien.